y a une autre forme de déni qui a aussi quelque chose à voir avec la tragédie. C'est quand on fait semblant de rien, quand on prétend contre vents et marées que tout va bien, quand on a perdu quelqu'un. Quelqu'un par exemple avec qui, sans forcément le connaître, on a grandi. C'est assez étrange comme sentiment. On semble convaincu, quitte à passer pour un dément, que le disparu est toujours vivant. C'est une façon de se protéger évidemment, mais là-dedans il y a une vérité. Pour les artistes par exemple qui ne meurent pas vraiment, leurs mots, leur corps, leur visage, quand on les regarde devant un écran, ils s'écrivent au présent. Si bien que parfois, leur disparition, on la voit même pas passer, on s'en rend compte beaucoup plus tard, par hasard, parce que l'œuvre de l'artiste sera toujours là et que sa mort, on n'en veut pas. On a fait en sorte de pas voir, de pas savoir. C'est émouvant parce que je me rends compte que ces mots que j'écris ce matin, ce sont presque les mêmes que ceux que j'avais écrits il y a 6 ans, que j'avais lus devant lui, à propos d'un dramaturge qui venait de nous quitter, qui s'appelait Édouard Albi. On avait parlé avec Gaspard Ulliel de la nécessité parfois du déni.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui, par son métier, convoque, transmet, fait résonner les voix du passé au présent. Est-il dans le déni pour autant ? Bonjour Gaspard Ulliel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Ça vous arrive d'être dans le déni, vous ?
Parfois. Je pense qu'il faut le faire avec parcimonie, mais effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la protection. Je pense que oui, parfois c'est un peu inévitable.
Quand vous jouez notamment, non ? Quand vous exercez ce métier d'acteur, vous êtes dans le déni de vous-même, hein ? Non.
Dans le déni moi-même, oui, mais non, je dirais qu'au contraire, il faut trouver un parfait équilibre ou même presque une symbiose entre ce que l'on est réellement, son identité propre et celle du personnage et la vérité d'un personnage.
C'est là-dedans que se joue justement la création pour vous, dans cette tension-là, entre
oui,
vous.
Oui, après, effectivement, je pense que pour se rapprocher de cette idée de déni de soi, ce que l'acteur essaye de saisir à un moment, c'est le total lâcher prise. D'être dans l'instant et que ça jaillisse du corps et plus seulement de la tête, d'un aspect plus mental.
Au cinéma autant qu'au théâtre ?
Ah, c'est une démarche un peu différente pour moi. Après, il faut dire que je suis quand même très néophyte au théâtre. Hein. J'ai peu d'expérience de théâtre. Pour moi, le théâtre, il y a quelque chose qui est... peut-être moins naturel, qui est plus de l'ordre du cérébral, justement, et qui, pour le coup, moi, ce qui à chaque fois me perturbe beaucoup au théâtre, c'est l'importance du corps. Alors là, on est plus dans quelque chose de brechtien, dans cette approche-là, mais pour moi, il y a cette sensation que le corps raconte énormément de choses sur scène, alors qu'au cinéma, on est souvent dans un dispositif de mise en scène qui va mettre en avant... le visage ou le regard.
Vous savez, je vous pose la question parce que je vous ai vu au théâtre, en l'occurrence l'année dernière, dans une pièce de Lars Noren qui s'appelait Démon. Et c'est un drame domestique qui évoquait à bien des écarts Qui a peur de Virginia Woolf d'Edouard Albee, mort, comme je le disais, le week-end dernier.
Complètement, oui, c'est presque un remake de la pièce d'Albee. Oui.
Et ça, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit justement qu'une œuvre se dissémine et survit au-delà de son époque, reste toujours présent, en fait, grâce aux réalisateurs, aux metteurs en scène, aux acteurs qui la perpétuent, aux lecteurs. Ouais. Pour vous, c'est ça, un acteur ? Quelqu'un qui passe, un passeur, Gaspard Ulliel. Quelqu'un qui passe un texte aussi.
Évidemment, évidemment. Je pense que c'est même tout. Enfin, au théâtre surtout, c'est ça concourt à la beauté de la chose. C'est là où ça élève la performance à quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'on est là pour faire exister des textes, faire exister des auteurs, faire exister. Une œuvre, oui.
Précisément, Jean-Luc Lagarce, l'auteur de Juste la fin du monde, adapté par Xavier Dolan, qui sort mercredi. Jean-Luc Lagarce, qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui, à votre avis ?
Qu'est-ce qu'il a laissé ? Bah, je pense qu'on peut volontiers stigmatiser cette langue si singulière. Je pense qu'il a inventé son propre langage.
C'est déjà pas mal.
Oui.
Je me suis souvent demandé pourquoi écrire du théâtre et pas écrire autre chose. Je crois que j'avais envie, puis je m'aime bien sûr que c'est pour ça que je continue à essayer d'en écrire, c'est que c'était comment les gens parlent, comment la langue, comment le son, choses comme ça. Quand vous lisez un livre, d'ailleurs en même temps je m'aperçois que j'aime bien les écrivains, les romanciers, qu'on pourrait dire, qu'on pourrait lire à voix haute. Donc j'aime ça, et je crois qu'au théâtre ce qui m'importe c'est ça, c'est comment les acteurs vont dire les choses.
La voix de Jean-Luc Lagarce, l'année de sa mort en 1995, qui dit qu'il écrit du théâtre pour entendre les comédiens dire son texte. Ça vous évoque quelque chose, ça, Gaspard Ulliel ?
Oui, puisqu'on est dans une langue très vernaculaire. C'est la langue de la vie. J'ai eu beaucoup de journalistes qui m'ont posé la question Est-ce que c'était difficile de s'approprier cette langue qui peut paraître parfois très élaborée, très écrite? Et je pense que c'est tout l'inverse. Je pense que c'est là la force de Lagarce, c'est qu'il arrive à retranscrire une langue qui est celle de la vie, qui du coup est très facile à s'approprier, qui est directement inspirée de ce qu'il peut entendre autour de lui. Tous les jours, c'est cette méfiance à l'égard du langage, ces gens qui se reprennent sur la grammaire, ce dédoublement du langage, ce langage heurté, hésitant. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez caractéristique, même qui va jusque dans la construction de ces pièces, c'est-à-dire que on est sur un langage qui se répète en permanence, c'est-à-dire que les personnages de ces pièces ne font que répéter la même chose de différentes manières. Et je dirais que c'est même la dramaturgie des pièces de Lagarce est construite là-dessus. C'est juste une juxtaposition de monologues. Il n'y a plus vraiment de vraie dramaturgie au sens de... Il n'y a pas d'évolution dans l'intrigue. Ce n'est qu'une succession de logorées, en fait.
Cette langue qui trébuche, qui hésite, effectivement, qui précise sans cesse, mais c'est aussi une langue qui tourne autour de ce qu'on ne peut pas dire. Et cette chose, en l'occurrence à l'époque, Gaspard Ulliel, c'est le sida qui n'est jamais nommé dans la pièce, ce silence. Vous l'interprétez comment, vous ?
C'est-à-dire que, effectivement, ça a été un peu le point de départ. Quand Xavier m'a donné le scénario la première fois, je sentais une légère inquiétude.
Xavier Dolan.
Voilà, Xavier Dolan, puisque il se disait certainement que j'allais mesurer l'importance et la grandeur de mon rôle au nombre de dialogues. Et c'est vrai que j'ai un personnage qui parle très peu, surtout comparé aux autres qui m'entourent dans le film. Et donc c'est vrai que le point de départ, il m'avait envoyé une lettre manuscrite assez jolie d'ailleurs où il me parlait de l'importance d'un travail sur l'écoute et des infinies possibilités qu'il y avait dans ce travail pour l'acteur. Et c'est vrai que ça a été le point de départ, mais qui au départ pouvait m'apparaître comme une réelle contrainte, un obstacle, le fait de d'être mutique tout au long du film. Et au final, très rapidement, je me suis aperçu que c'était peut-être justement une force, ou en tout cas, le silence était le lieu privilégié de l'émotion, de l'introspection, de la réflexion. C'est-à-dire qu'avant de parler, il y a forcément ne serait-ce qu'une seconde de silence, et c'est le moment où on réfléchit à ce qu'on va dire. Et c'est peut-être justement dans ce moment-là où on offre à voir une part de son âme, de son intimité. Et c'est ce que Xavier essaye d'aller chercher en chacun de ses personnages.
L'histoire de Juste la fin du monde, elle est toute simple. Un homme qui réapparaît dans sa famille après 12 ans d'absence pour annoncer à ses proches qu'il va mourir, qu'il ne reviendra plus. Un personnage qui est artiste, qui est donc une sorte d'alter ego de l'auteur, manifestement. Il vous a dit, Xavier Dolan, pourquoi est-ce qu'il n'a pas joué ce personnage alors qu'il est habitué à jouer dans ses films ?
J'ai jamais réellement voulu aborder ce sujet avec lui, mais il y a quelques jours, on faisait des débats suite à la projection du film en province, et c'est une question qui est arrivée sur la table. Et, et lui dit que apparemment, il n'a jamais éprouvé l'envie d'interpréter ce rôle, qu'il en avait peut-être pas la maturité. Moi, j'ai toujours senti qu'il y avait une sorte d'alter ego de Xavier dans ce personnage. Lui, il dit que non. Alors, c'est peut-être du déni, justement. mais moi, j'ai toujours vu comme un jeu un peu triangulaire entre Lagarce, qui, lui, affirme clairement qu'il y a une grande part d'autobiographie dans cette pièce, et puis, effectivement, à un moment, Xavier, qui se retrouve dans plein d'aspects de ce personnage. Donc, c'est assez intéressant d'avoir ce rapport-là avec le metteur en scène, tous les jours sur le plateau.
Est-ce que tout ceci n'est pas dérisoire ?
J'ai créé un monstre. Et maintenant, je dois vivre avec.
Oui, bonjour. Yves Saint-Laurent à l'appareil.
Je vois des vêtements qui volent, qui flottent. Juste des formes, des couleurs en mouvement.
Non, folie.
Aucune folie, puisque nous nous sommes donné l'un à l'autre depuis toujours.
Mais qu'est-ce que vous faites ?
Ça risque rien. Donc ça sert à ceux qui sont encore vivants, non ? Je vais pas les goupiller.
Si Manek était mort, Mathilde le saurait.
Dis-moi, Bleuet, t'as bien une fiancée, non ?
Mathilde, j'entends son cœur qui passe comme du morse.
Je te montrerai tout à l'heure, c'est pas tout à fait fini.
Qu'est-ce que je fais, Tricot ?
Bah pourquoi tu pleures ?
Nous avons des choses à vous dire.
Messieurs, Paris souffre. Paris a faim.
Nous sommes des centaines, peut-être des milliers. Faut que les puissants entendent nos voix.
J'ai vu le soleil.
Il m'a touché la main.
J'ai vu le roi. Il m'a touché la tête.
Et mon frère aussi lui a coupé la tête.
Tu diras à Bobine que mon nom c'est Robert Tassen et que je le lâcherai pas.
Ça c'est qu'il y a des ennemis contre lesquels on ne peut pas lutter. Je parle de vous. De votre ennemi intérieur.
Occupez-vous du vôtre et oubliez-moi.
Vous allez toujours autant au cinéma, Gaspard Ulliel ?
Oui, un peu moins, forcément, depuis que je suis père. Hein, c'est quand même plus compliqué.
Ça prend du temps, il paraît.
Voilà. Mais oui, oui, pour moi, c'est vraiment important, même de faire la démarche d'aller en salle. C'est vrai que ça peut paraître aujourd'hui un peu surprenant, mais moi, je prends un vrai plaisir à me déplacer dans un cinéma. Voilà, c'est une vraie expérience à part entière. Et oui, ça m'arrive d'y aller 4 fois par semaine. Oui.
Je me disais en préparant cette émission, vous êtes assez rare au cinéma en tant qu'acteur pour le coup. La dernière fois, c'était il y a 2 ans, dans le Saint-Laurent de Bertrand Bonello, qui a eu un retentissement considérable. Qu'est-ce qu'il a changé, ce film, pour vous ?
Oh bah, c'est sûr que ça restera, je pense, un film très important dans mon parcours. C'est presque un point de bascule, je dirais.
C'est-à-dire le regard qu'on a porté sur vous ?
Oui, il y a ça. C'est-à-dire que je mesure aujourd'hui à quel point ça m'a peut-être ramené vers une certaine. C'est pas une légitimité, mais enfin en tout cas c'est clair que c'est une nouvelle impulsion pour moi et aussi pour les autres. Je sens que ça a suscité l'envie de certains cinéastes qui peut-être avaient plus de mal auparavant.
C'est-à-dire qu'ils vous voyaient peut-être comme le jeune premier. C'était comme ça qu'on vous connaissait. Et là, vous êtes passé à autre chose.
Tout à fait. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec Saint-Laurent, je vois là le premier vrai rôle d'homme. Il y a une vraie maturité dans ce personnage et même dans ma démarche qui faisait peut-être défaut à mes rôles précédents.
Vous auriez pu enchaîner les projets après Saint-Laurent ?
J'aurais pu, mais je suis très précautionneux et je trouve quelque chose de très agréable et même de nécessaire pour moi dans l'idée d'espacer les expériences de film, de prendre mon temps. Enfin, je dis ça, peut-être qu'à un moment, je serai contraint d'adopter un nouveau rythme. Hein,
mais en même temps, c'est une vraie question. Qu'est-ce que vous attendez d'un film, d'un projet, d'un rôle aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je pense que le vrai déterminant dans mes choix, c'est un projet, un personnage, une expérience qui me permette d'aller emprunter de nouvelles voies, m'essayer à quelque chose de nouveau, essayer de me redécouvrir, de me redéfinir. Je vois vraiment cette expérience comme un peu comme un laboratoire. C'est-à-dire que dans l'expérience, il n'y a pas vraiment en plus une nécessité de résultat, c'est une nécessité de moyens. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'aller explorer. D'aller mettre en lumière de nouvelles choses chez moi.
C'est intéressant parce qu'on vous a souvent proposé des rôles, Gaspard Ulliel, au contour un petit peu flou, mystérieux, un peu déphasé aussi. Le rôle qu'on ne vous a pas encore proposé et dont vous rêvez, vous, c'est quoi ?
C'est-à-dire que je pense pas de cette manière-là. Il n'y a pas quelque chose d'aussi précis, aussi articulé, aussi rationnel. C'est-à-dire que...
Vous me laissez surprendre, en fait.
Oui, me laisser surprendre et aller vers des choses, comme j'ai dit, qui... m'invite à qu'il soit en tout cas la promesse d'une exploration profonde. C'est-à-dire qu'avec Saint-Laurent, je me suis aperçu qu'en fouillant comme ça au fond de soi, c'est comme si d'un coup, nous, même en tant qu'être, en tant qu'homme, dans notre rapport à notre intimité, on se redécouvrait à travers nos personnages et nos expériences de travail. Et c'est ça qui est incroyable dans ce métier.
Ce rôle, précisément, de Louis dans Juste la fin du monde, de Xavier Dolan, c'est un rôle important en quoi ?
C'est un rôle important à plein d'égards. Après, Moi, c'est vrai que le point de départ par rapport à ce qu'on s'est dit plus tôt, sachant que j'allais être beaucoup dans l'écoute, dans la réaction, j'ai vraiment focalisé mon travail sur la vie de ce personnage, le passé de ce personnage que je me suis totalement raconté, inventé, puisqu'il y a quand même très peu d'éléments qui sont disséminés tout au long de la pièce ou du film qui nous racontent vraiment le passé de chacun de ces personnages. Donc j'avais une liberté totale dans cette interprétation.
De création, là, pour le coup.
Presque. Voilà, presque. Ouais. Et forcément, c'est-à-dire qu'il y a un effet de résonance, on va essayer de créer des ponts avec notre propre personnalité, notre perception et notre vécu, donc il y a quelque chose de profondément intime dans cette démarche. Et c'est aussi une certaine façon aller mettre du sel sur ses propres blessures.
Boomerang. Auguste. Costa Trappenard.
Alors oui, c'est vrai, il a les yeux bleus, hein, la fossette facile, la cicatrice de gangster sur la joue. Oui, il a la carrure, l'élégance, le charisme, le charme irrésistible d'un Alain Delon jeune. Bon, y a pas quoi fouetter un chat non plus, cheveux en arrière et dans le vent, ténébreux jusqu'au bout de ses bottines noires, étincelantes, Gaspard Ulliel. Invité de Boomerang pour juste la fin du monde de Xavier Dolan ce matin. Et ce qui est assez saisissant dans ce film, comme dans tous ceux de Dolan d'ailleurs, c'est le regard qu'il porte sur les comédiens, et sur vous particulièrement, Gaspard, puisqu'il vous filme presque exclusivement en très gros plan. Cette proximité de la caméra, ça implique forcément quelque chose sur le jeu de l'acteur. Comment vous l'avez géré, vous ?
C'est sûr qu'il y a un petit temps d'adaptation. Enfin, je dirais, en tout cas, il faut adapter son jeu à ce dispositif assez singulier et qui était pour moi totalement inédit. Mais ce qui est intéressant, c'est enfin, moi, j'ai pu constater que ce n'était pas quelque chose qu'il avait forcément prémédité. On a commencé le tournage avec, j'ai l'impression, une idée totalement inverse de la part de Xavier et de son chef-op. Il s'était dit, pour une fois, on va essayer d'élargir, d'avoir une profondeur de champ, de pouvoir réunir des personnages au sein du même cadre. Peut-être en se disant que, adaptant un texte de théâtre, il fallait avoir une approche un peu plus théâtrale, même si c'est... Et au bout d'une ou deux journées de tournage, il s'est rapproché davantage pour finalement trouver cette valeur de cadre qu'il n'a plus quitté tout au long de l'expérience. Et je trouve que c'est là la force de son film, c'est de charger chaque plan d'une nécessité cinématographique qui lui donne une vraie légitimité dans cet exercice d'adaptation.
12 ans que j'y suis pas allé. 12 ans, tu peux vraiment pas les saquer, dis donc. Saquer, non. La famille, quoi. Il arrive qu'on naisse chez des gens dont on ne comprend pas qu'ils nous soient proches ou reliés par le sang, et dont on s'éloigne, volontairement. 12 ans. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non. Prévenir du temps qui reste. 12 ans, c'est long. Et rien depuis. La mère, si, quelquefois. Et ma sœur, que je connais à peine, qui n'avait que 10 ans quand je suis parti. La belle-sœur aussi, femme de mon frère, charmante à ce qu'on dit. Et puis mon frère. Et pourquoi avoir peur d'eux, au fond ? Ça pourrait être agréable. Comme dans les romans où tout finit en beauté, on finirait par s'aimer, on rirait avec bêtise. Ils fermeraient les yeux sur les erreurs. Où il me reprocherait tout, ne me pardonnerait rien. Ça pleurerait, ça crierait, comme dans les feuilletons qui ne se posent pas de questions. Les secrets, les sanglots, les reproches. Mais qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai ? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive, en souillant leurs souvenirs. Qu'est-ce qui se passera ? Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde.
Cette bande-annonce, c'est une œuvre à part entière, dans le sens où c'est un texte qui a été totalement inventé par Xavier, qui est inspiré un peu de la pièce de Lagarce, mais c'est lui qui me l'a soumis quand on faisait la post-synchro sur le film. Et il a conçu cette bande-annonce comme quelque... Enfin, c'est-à-dire que vous n'entendrez pas ces phrases dans le film. C'est quelque chose qui a été posé au-dessus d'une bande-annonce qui a été articulé justement à partir de ce texte que Xavier a inventé. Mais pour répondre à votre question, je dirais que déjà dans l'adaptation de Xavier, j'y voyais quelque chose de très brillant forcément et de très personnel. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment approprié cette pièce, même dans l'écriture, puisqu'il a réussi à en adoucir la langue tout en conservant ce style et en rendant grâce au travail de Lagarce, mais il y avait déjà quelque chose de sensiblement différent de la pièce, je trouvais, moi, dans le scénario. C'est une pièce qui, plus elle avance, plus elle devient abstraite. Hein. Il y a un moment des personnages qui ne se répondent plus, ça n'est qu'une une succession de monologues. Et il a réussi à la rendre beaucoup plus vivante, beaucoup plus, enfin, de manière à ce qu'elle fonctionne en termes de cinéma.
Alors vous savez que ça se passe comme ça au cinéma, mais pas du tout à la radio. Et je vous ai demandé, pour terminer cette émission, de nous lire un passage de juste La fin du monde de Jean-Luc Lagarce, faire entendre justement ce monologue de fin qui, rassurez-vous, chers auditeurs, n'apprend rien de ce qu'on sait déjà, sinon la beauté de cette langue. Encore une fois, je crois que c'est une très belle façon de terminer cette émission et de donner envie d'aller voir ce film.
C'est parti. Après, ce que je fais, je pars. Je ne reviens plus jamais. je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore, après j'en aurai fini, c'est l'été. C'est pendant ces années où je suis absent. C'est le sud de la France. Parce que je me suis perdu, la nuit, dans la montagne, je décide de marcher le long de la voie ferrée. Elle m'évitera les méandres de la route, le chemin sera plus court et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis. La nuit, aucun train n'y circule, je n'y risque rien et c'est ainsi que je me retrouverai. À un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense. Il domine la vallée que je devine sous la lune et je marche seul dans la nuit, à égale distance du ciel et de la terre. Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand cri. Un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée. Que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir. Hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai.
Beatles, Faithful Man dans la bande originale de Saint-Laurent de Bertrand Bonello, tout comme l'était Venus and Fur du Velvet Underground avec Nico que vous avez écouté tout à l'heure. Saint-Laurent où brillait Gaspard Ulliel comme une étoile. Il est 9h39, presque 40 sur France Inter. Sonia De Villers, l'instant M. Ça va, Sonia?
Mais ça va, Augustin. Merci. Merci d'ouvrir les tiroirs de Boomerang.